Dernières années, c'est converti, c'est loué plus cher. Donc, ça aussi, ça a un effet sur des personnes qui, finalement, s'en sortaient bien, puis finalement, ont plus d'alternatives. Donc, je dirais pas qu'elles s'en sortaient bien, mais qu'elles s'en sortaient. Donc,
Ouais.
on voit tout ça actuellement. Des personnes qui étaient en situation de précarité déjà avec un petit revenu, qui réussissaient à se loger, mais qui n'y arrivent plus à cause de la cherté des logements et qui, une fois évincées, parce qu'il y a eu beaucoup d'évictions frauduleuses, là, il faut le rappeler, hein, dans les dernières années, en raison du manque de protection, ça continue malgré le moratoire. Donc, des gens qui, après une éviction, ne réussissent pas à se reloger. Et c'est ça aussi une des conséquences là, de ce très grand nombre de personnes en situation de vulnérabilité aujourd'hui, c'est que quand on est forcé de déménager, c'est là qu'on fait face à des logements particulièrement hors de prix et qu'on se retrouve en situation de difficulté. Donc, il faut renforcer les protections aussi sur les évictions. Heureusement, il y a eu un moratoire un peu tardif, mais ce qu'on constate, c'est que le moratoire actuel sur certains types d'évictions, ben, il n'est pas si bien appliqué que ça finalement. Donc, il continue à y avoir des évictions frauduleuses qui se produisent, puis les dommages sont pas suffisants. Donc, beaucoup d'augmentation des loyers se passe là, hein. Éviction sous faux motif, on augmente les loyers de façon importante. Donc, ça contribue à faire augmenter rapidement les prix, puis en même temps, il y a des gens qui se retrouvent en situation de grande précarité. Mais il faut aussi dire que malgré le fait que des personnes déjà en situation de précarité sont particulièrement vulnérables et à risque de tomber en situation d'itinérance, comme on le voit partout au Québec actuellement, et ça ne devrait pas arriver dans une société riche comme la nôtre, il y a aussi des gens qui ont un revenu correct, qui ne pensaient jamais être victimes de la crise du logement, puis qui aujourd'hui en sont victimes parce que finalement les loyers augmentent tellement vite qu'ils se retrouvent dans des situations où ils ne réussissent plus là à se loger sur le marché privé. Puis ces personnes-là aussi font face à l'absence d'alternatives. Finalement, ces logements privés-là trop chers parce que au Québec, c'est 90% du parc de logements locatifs qui est privé. Les logements privés qui ont augmenté de 50% depuis le début de la pénurie en 2018. Fait que si on regarde la capacité de payer des gens, on constate rapidement que ça fait de plus en plus de locataires qui s'appauvrissent carrément.
Madame Laflamme, parlons des mères de famille monoparentales, parlons des familles avec des enfants. Moi, je suis mère de trois enfants. Je me suis séparée alors que j'avais trois jeunes enfants. Quand on parle de logement adapté pour les familles, quand on parle de logement pour les familles, pour les mères monoparentales, pour les pères monoparentales aussi, on parle beaucoup de logement, logement, logement. Élever une famille avec deux, trois enfants en loyer, c'est le bordel. C'est le bordel. Les règles des propriétaires, les enfants qui veulent jouer dehors, qui n'ont pas nécessairement accès à une cour, qui veulent faire du bruit, qui font du bruit, qui sont des enfants, qu'on veut laisser être des enfants. Quand on parle du manque de logement, puis on fait référence notamment aux familles, on parle pas assez souvent, je pense, de l'accès à la propriété, avoir une maison, avoir une cour, une balançoire, un carré de sable, avoir de l'espace pour ses enfants, pouvoir leur permettre de marcher du talon ou de crier ou de pleurer en plein milieu de la nuit sans déranger tout le voisinage, c'est un luxe que seulement certaines personnes peuvent se permettre d'avoir une maison avec des enfants. Mais quand on parle du manque de logement, est-ce que le Frappru parle aussi ou a en tête cette nécessité de donner plus de pouvoir aux familles pour qu'elles deviennent aussi libres et qu'elles deviennent en pleine possession de leurs moyens lorsqu'il est question d'accès au logement, mais accès au logement incluant la maison, incluant un endroit où il fait bon élever des enfants et où c'est pas un éternel combat contre le bruit, contre l'intimité, contre les réflexes naturels qui arrivent quand on a une famille.
Bien, en fait, le Frappru, on travaille dans la perspective d'une plus grande mise en œuvre du droit au logement pour tout le monde. Hein? Le droit au logement décent tel que défini par l'ONU, ça n'exclut pas là d'avoir accès à une maison. C'est sûr que nous, comme regroupement, on travaille avec des comités logements qui travaillent principalement avec les locataires, y compris les familles monoparentales que vous décrivez, qui n'ont pas des conditions idéales, malheureusement, et de moins en moins là sur le marché locatif privé. Mais quand on regarde le revenu de ces locataires-là pour une famille monoparentale à Québec, c'est autour de 60 000 $. On peut pas penser qu'une personne monoparentale actuellement va améliorer ses conditions en achetant une maison puis en consacrant au mieux 100% de son revenu pour ça. C'est sa capacité de paiement qui sera pas respectée. Puis Donc, c'est la raison pour laquelle nous, dans notre travail avec les locataires, dans nos interventions, on travaille au niveau des politiques en matière de logement locatif, en se disant que l'accès à la propriété pour les personnes qui ont accès et qui ont les revenus, tant mieux, mais que si on promouvoit l'accès à la propriété pour l'accès à la propriété pour les familles, les personnes qui monoparentales dont vous parlez, qui n'ont pas les revenus pour le faire, ça va les appauvrir. Et puis, au final, c'est pas vrai que leurs conditions vont être mieux si elles consacrent tout leur revenu pour payer l'hypothèque. Et quand on regarde les prix actuellement, vous le savez, dans la région de Québec, avec la surenchère et tout ça, on peut pas penser là, que le revenu médian lors du dernier recensement d'une famille monoparentale à Québec, là, pour ne parler que Québec, c'est 60 000 $. Donc, on voit bien là que c'est pas ça qui va régler le problème pour ces personnes-là. Par contre, on pense qu'il faut avoir différentes formules de logements sociaux sans but lucratif, notamment les coopératives d'habitation qui sont une solution pour les familles où il y a justement, en général, des conditions où les enfants sont les bienvenus, où il peut y avoir des espaces communs, une cour, etc. Même chose aussi dans les autres types de logements sociaux. Il y a des projets pour familles dans les logements publics où il y a, dans le fond, des projets pour les enfants, des jardins, des cours. Donc, nous, on pense qu'il faut pas penser que ce n'est pas une solution. Il y a plusieurs familles qui élèvent leurs enfants, là, comme je le disais, que ce soit en coopérative ou en logement public ou dans une autre formule d'organisme sans but lucratif d'habitation. Il y en a qui ont pour mission spécifique là, de répondre aux besoins des familles. On pense que cette diversité-là, elle est précieuse. Elle fait partie du modèle québécois. Il n'y en a pas assez. Mais qu'il faut s'assurer que les projets qu'on finance parmi ces milliers de logements locatifs dont nous parlent les gouvernements qu'on veut financer, ben il y en a qui sont réellement abordables pour les familles puis qu'on va s'assurer qu'il y a des conditions de vie décentes pour améliorer les conditions de vie des enfants.
Nous, c'est ça. Chose certaine, Mme Laflamme, on recherche tous à ce que nos familles, justement, puissent vivre là, dans un lieu qui va permettre l'épanouissement des enfants. Là,
absolument nécessaire.
Exactement, que ce soit en logement, en copropriété ou en propriété, là, en maison unifamiliale. Véronique Laflamme est organisatrice communautaire et porte-parole pour le Frappru. Je vous remercie infiniment pour votre disponibilité ce matin. On va souhaiter qu'il y ait de moins en moins de familles, année après année, qui soient à la recherche comme ça d'un logement à 24 heures de la grande période de déménagement. Merci beaucoup pour votre disponibilité ce matin.
Merci de l'invitation. Au revoir.
Merci, au revoir. Bonne journée. Alors, c'était Véronique Laflamme du Frappru. Alors, intéressant. Super intéressant la question que tu as posée, Jacinthe, parce que oui, en effet, il faut améliorer l'accès à la propriété et d'autant plus pour les personnes monoparentales. Tu as parlé de ta situation. Moi, c'est pas monoparental dans le sens que la mère des enfants est encore très présente pour les enfants puis les enfants sont en garde partagée. Ouais. Mais dans le sens que moi et ma conjointe, on vient de se mettre ensemble pour acheter une maison parce que les deux séparés n'étaient pas capables avec notre revenu. On a quand même un revenu au-dessus, là, justement, du 60 000 $ là, mentionné dans le revenu médian. Alors, faut améliorer l'accès à la propriété parce que tu as tellement raison. Enfants s'épanouissent tellement en ayant leur propre milieu de vie, leur propre cours, leur propre carré de sable, leur propre piscine, leur propre
chambre trampoline. Des fois, parce que parfois en loyer, on n'a pas le choix d'avoir deux enfants dans la même chambre. Moi, j'ai déjà eu trois enfants dans la même chambre pendant quelques années.
Ouais, c'est ça.
C'est du stock à gérer, une fille, deux gars dans la même chambre. mais oui, c'est ça. C'est sûr que des logements sociaux, c'est essentiel, c'est important, mais je trouve qu'on manque d'ambition quand on ne vise que ça pour les familles démunies ou les familles monoparentales ou les familles à faible revenu. Je trouve qu'on manque d'ambition. On devrait ambitionner à les rendre indépendants financièrement, à les rendre indépendants financièrement. Ce que je veux dire, c'est au moins d'avoir cette possibilité-là, d'avoir accès à la propriété, d'avoir une facilité de mise de fonds, je ne le sais pas trop, avoir des conditions facilitantes pour accéder à la propriété, parce qu'après ça, c'est de l'épargne forcée. Il y a une portion de ton loyer ou une portion de ton revenu que tu mets dans ton hypothèque qui est de l'épargne forcée et qui te permet de gagner un patrimoine.
Qui est de l'enrichissement.
Absolument.
Exactement. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, en faisant ces actions-là, on va libérer des logements abordables et sociaux et c'est une roue qui va tourner positivement au lieu d'avoir une roue qui reste sur place là, avec juste du logement social ou logement abordable. Très, très, très d'accord avec toi. Alors, vous voyez, c'est le genre de discussion qu'on va avoir à Boulevard Against le matin. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir pour les cinq prochaines semaines. On fait une courte pause. Par la suite, on revient avec les différentes nouvelles importantes dans la journée, mais surtout, on va parler du repêchage de la Ligue nationale de hockey et de cette fameuse transaction du Canadien de Montréal. Vous en pensez quoi? 418-971-1021. Noah Dobson à 9,5 millions par année pour 8 ans. C'est un bon ou c'est un mauvais deal pour le Canadien? On parle de ça après la pause, Mathias?
Yes, sir.
Excellent. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est Boulevard Against le matin.
Boulevard Against le matin. Alerte promotion chez